histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions à Limoges en 1895 avec Nejma Bouakra, Julie Béressy et les ouvrières de la maison Clément qui fabriquent des corsets. Une discipline de fer est imposée aux femmes à l'ouvrage, si bien que le 14 juin 1895, 44 ouvrières et apprentis refusent de se mettre à genoux dans l'atelier. C'est la grève. Elle dure 108 jours, les ouvrières exigent la suppression des amendes et des prières. Cette histoire nous parviendra grâce à Jeannette du Sartre-Chartreux qui archiva avec passion cette mémoire avec l'aide des archives de la CGT. Aujourd'hui, voici son portrait, tressant en Limousin, le canevas de l'histoire des femmes ouvrières de mère en fille.
1923, donc j'étais jeune puisque c'était ma naissance. Pour moi, il y a deux souvenirs. Ces souvenirs, ils viennent parce que j'ai pu enregistrer en direct alors maman, qui avait une mémoire très très fidèle.
Second épisode, de fil en aiguille, des ouvrières.
Je suis née dans le Madoulet. Mes fenêtres donnaient sur la petite rue du Navet. Oui. Et je suis... Ma jeunesse s'était déroulée au champ de la guerre de 70.
Marie Dussart.
Et comme nous avions perdu l'Alsace et la Lorraine, tous les Français en souffraient et toutes les chansons se rapportaient à cette époque-là. Et j'ai été bercée par ces chansons-là.
Mais tu as su une, tu t'en rappelles?
Oui. C'était un soir dans une chambre rose, un frébambin dormait dans son berceau. Il souriait la lèvre à demi-close, car dans son rêve, il voyait un drapeau. En s'éveillant, il dit, maman, écoute, n'entends-tu pas du canon le fracas?
Limoges était alors la ville rouge, comme elle avait été la capitale révolutionnaire du Sintre en 1871.
Jeannette du Sartre-Chartreux.
Et la ville sainte du socialisme en 1848, sa réputation était bien établie.
C'est vrai qu'on a entendu souvent Limoges ville rouge. Sur les bords de Vienne et un petit peu partout dans la ville, il y avait énormément de fours à porcelaine, puisque c'est la fabrique emblématique de la ville de Limoges.
De la Giacomo.
Et que ces fours qui étaient chauffés au bois chauffaient énormément les cheminées. Et donc les cheminées rougeoyaient et les flammes rougeoyaient dans le ciel, montaient et ça faisait Limoges, ville rouge.
À Limoges, le matin, le soir, quel tableau faut les voir qui trottinent. Elles vont de leur pas pressé, sans façon s'embaucher aux usines.
Vous avez la ville industrielle, ouvrière, avec des cheminées d'usines qui crachent, comme on dit, jour et nuit.
Michel Kiener, historien.
C'est pour ça qu'on représente parfois la ville de Limoges avec la nuit, avec des flammes partout. Je rappelle qu'en 1920, mais encore après la Première Guerre mondiale, Limoges a la moitié des fours à porcelaine français. Donc c'est vraiment une ceinture de feu autour de Limoges.
Limoges a été réputée à cette époque-là, en 1905, comme ayant été le siège de grèves extrêmement importantes qui ont vu la mort d'un ouvrier, Camille Vardel, où les gendarmes ont tiré sur la foule pour disperser cette foule qui manifestait, qui menaçait l'équilibre social, entre guillemets, puisque il y avait plusieurs patrons qui avaient vu leurs voitures incendiées, les usines en lock-out total. Donc c'était plus possible de tenir ça socialement. Il y a eu ensuite les obsèques de Camille Vardel qui ont été des obsèques gigantesques, avec des milliers de personnes qui étaient dans les rues, et on peut voir sa tombe avec des pierres qui symbolisent les barricades.
Donc tout ça, c'est clair, c'était une ville noire, tendue, extrêmement tendue, ouvrière, mais avec des moments de joie, et notamment, de façon très populaire, la chanson. Tout le monde chante. Il y a des opérettes qui sont données dans des théâtres provisoires ou des choses comme ça. Et il y a des orphéons déjà, des fanfares. Le chemin de fer a permis les premiers concours de fanfares.
Il y avait une chose aussi, c'est que j'avais beaucoup de mémoire et comme je chantais toute la journée. Alors à ce moment-là, il y avait les chanteurs dans les rues qui se tenaient le samedi au coin de la ville, là, et la semaine qui se tenait rue du Cocher. Et ma mère, je n'avais pas la permission de sortir ni rien, mais quand même, elle me laissait écouter. Alors j'apprenais les chansons, et le lendemain, très vite, et deux jours après, je les savais, et il fallait, alors, monte sur la table, Titou, allez, chante Cœur de Lila, chante Les Femmes Jolies, il fallait que je chante, et évidemment, j'étais la plus jeune.
Aujourd'hui, en Corée, plein d'entraînes, nous chantons ce joyeux.
La mémé, la mère et la fille.
Nous sommes de Limoges.
La mémé craignait que la fille, déléguée syndicale, ne perde son emploi. La mère, que la fille ne mange pas à sa faim. Et la fille, que la mère perde le fil des chansons de son enfance. Car parfois, c'est tout ce qu'il nous reste, une chanson. Et les airs des chansons donnent du cœur à l'ouvrage. Et même quand l'ouvrage manque et que le chômage sévit.
Voilà venir glorieux.
C'est vrai que ça, le mot chômage, pour moi, ça reste quelque chose que j'ai toujours associé à la guerre. Maintenant, bien sûr, la guerre a pris une autre ampleur, peut-être, mais la guerre économique, c'était fortement ressenti. Et je voyais passer à la maison des femmes qui revendiquaient le travail comme un dû, qui avaient le verbe haut, puis d'autres, au contraire, qui avaient une résignation proche de l'abandon, quoi. Alors ça, ce sont des images, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de laisser-aller, si vous voulez. Il y en avait peut-être dans la conduite personnelle, je ne peux pas en juger, mais il y avait des luttes qui étaient importantes et qui étaient difficiles. Et nous sommes en train, à l'Institut d'Histoire Sociale, de classer les archives des Cures et Peaux.
L'avenir est radieux.
Elle était chez elle, ici. Elle était connue comme... La petite du Sartre.
Francis Juchereau, de l'Institut d'Histoire Sociale.
De la Cité des Coutures, avec un père communiste, des parents, des ouvriers de la chaussure, bien connus dans tout le milieu populaire de Limoges. Alors là où elle était complètement atypique, c'est qu'elle avait décidé de se convertir, mais elle n'a pas complètement changé. Alors faut pas croire, le mouvement, les catholiques dans le mouvement ouvrier ici, c'était pas complètement négligeable. Dans les quartiers populaires, il y avait des prêtres avec des patronages, etc. Vous avez entendu parler du Cercle Saint-Pierre, le club de basket. Ben, c'était un patronage catho, populaire dans les quartiers populaires au départ. Donc, dans tous les quartiers ouvriers, il y avait des curés qui animaient les patronages, des mouvements de jeunes, etc., etc. Et ça faisait partie du paysage.
Bonjour.
Nous sommes en place des Jacobins.
Voilà, vous êtes ici dans les locaux des archives municipales de la ville de Limoges.
Et nous allons arriver dans le bureau de
la directrice,
Madame Sabi.
Il y a déjà une douzaine d'années qu'un fonds particulièrement important, celui de Jeannette Chartreux, une femme qui était à la fois syndicaliste, qui s'était engagée dans la jeunesse ouvrière chrétienne et qui a collecté la mémoire ouvrière de Limoges, avait livré aux archives municipales en plusieurs étapes son fonds d'archives, qui est un fonds tout à fait particulier parce que il y a à la fois ses notes de travail, ses productions, mais aussi le recueil de témoignages qu'elle a fait tout au long de sa vie pour dresser différents portraits sur cette mémoire ouvrière. Je dirais que c'est tout un pan de l'histoire de Limoges, en gros, de 1885 à 1980, si vous voulez, quelque part, que l'on découvre au travers des archives de Jeannette Chartreux, qu'elle parle, j'allais dire, de sa famille, de ses amis, mais également de toutes les personnalités qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Et on voit dans les enregistrements audio qui ont eu lieu qu'elle nous fait partager un certain sens du combat, de la solidarité, de la résistance. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, je dirais, une vie de travail dans tous ses détails, dans toute sa diversité, dans tous les métiers auxquels elle a été confrontée par son engagement que l'on retrouve au travers des archives.
Jeannette avait une personnalité qui était forte et singulière et très enracinée et à la fois ouverte sur le monde, avec un attachement très fort et des fidélités très fortes. Et c'était un être du peuple, mais avec un intellect, une spiritualité particulièrement forte. Donc c'était vraiment quelqu'un du peuple qui habitait toute sa vie dans une cité ouvrière. Mais elle aussi, elle a vécu ça un peu, sa vie, comme pas comme un sacerdoce militant, mais il y avait de ça.
Je crois que la première éducation qui m'a été donnée sur ce point, elle a été par mes parents.
Jeannette du Sartre-Chartreux.
C'est vrai qu'ils avaient une morale qui était une responsabilité sociale. Ils me répétaient « ce que tu ne fais pas, d'autres devant le frère à ta place, au travail comme dans l'action, il faut te souvenir de ça ». Et je crois que ça marque quelqu'un quand on voit que ses parents sont des... Ils pratiquaient les trois solidarités des Limougeaudes, à savoir mutualité, coopérative, syndicat. On ne pouvait pas se tenir en dehors de ce mouvement social. Pour peu qu'on soit à l'écoute un peu des autres, on s'imprègne de ça et on veut rester fidèle à ça.
Bon, elle était responsable syndicale et à la fois d'une section très ouvrière et masculine... du Parti communiste, en plus, chrétienne, communiste, etc., qui était née dans une famille déchristianisée, en plus, donc qui s'était quelque part convertie, tout en gardant cet attachement au peuple et à son émancipation. Alors, retrouvé dans le christianisme, d'ailleurs, comme les prêtres ouvriers, comme la théologie de la libération, cette aspiration des premiers chrétiens.
Est-ce que Jeannette du Sartre-Chartreux, vous avez parlé de ce moment où elle avait décidé de se convertir ?
Elle m'a dit que ça s'était passé avec sa mère, conjointement. Donc c'était une histoire de femme dans la famille. Il y avait une complicité entre les filles, les sœurs et la mère qui était très forte. Sa mère, c'était aussi une personnalité ouvrière qui était indépendante... Qui avait été dans les années 20-30, qui avait été déléguée ouvrière dans les usines de chaussures. Et donc, c'est une espèce d'aspiration. Elle habitait à côté de la cathédrale. Ce quartier, ça s'appelle l'Abbessaille, parce qu'il y avait une abbaye. Il y avait une abbaye qui est détruite maintenant, c'était l'abbaye de la Règle. Autour de la cathédrale et jusque sur les bords de la Vienne, puisque la cathédrale de Limoges se surplombe la Vienne. Donc il y avait un quartier populaire et elle a vécu dans ce quartier populaire. C'était des taudis au départ. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'était avec sa mère, c'était une décision qu'ils avaient prise personnellement en commun. Et puis bon, ça avait été une décision qui avait été respectée par le père, la famille, etc. Mais on voyait que... Dans ces familles-là, les individus avaient des personnalités. Et les femmes, à qui on remet, plus que même si elle n'est pas l'aînée, à qui on remet le pouvoir.
Papa était athée, radicalement athée. Maman avait, de toute façon, maman était du côté de sa fille, toujours. Mais mon père pensait que c'était une aliénation, que je n'aurais plus mon libre arbitre. Et il me répétait toujours, tu perds ton libre arbitre, ça, là. Tu perds ton libre arbitre.
Et les femmes ici, à la campagne, elles ont eu à assurer, avec les migrations notamment, des hommes pendant la belle saison sur les chantiers parisiens, parce que bon, c'est les maçons Creusois et compagnie qui, en bonne partie, ont construit le Paris haussmannien. Donc les femmes, avec les enfants et les vieux, faisaient tourner la ferme. Et puis après, dans les usines, quand ces gens-là, les générations qui sont passées dans les usines, très vite, la place de la femme aussi s'est trouvée affirmée.
Marie Dussartre.
En 1915, on a ouvert les usines pour fabriquer les obus. Et ma mère, qui était très forte, est rentrée à un tour.
Très courageuse.
Très courageuse et forte aussi, parce qu'il fallait quand même être forte. Moi, je suis rentrée en apprentissage chez une dame, et après, on m'a fait rentrer pour l'armée. Alors, on a grossi un petit peu mon âge, et c'est là que j'ai passé de bons mois au milieu des femmes beaucoup plus âgées que moi, où on m'appelait le Titou parce que j'étais maigre, je chantais toujours, et je faisais le pitre. Parmi les ouvrières, il y en avait une qu'on appelait à ce moment-là, n'est-ce pas, une fille de joie, et qui passait ses nuits à courir avec les soldats, et qui le lendemain ne travaillait pas trop, mais qui voulait toujours entendre chanter « Dans le Mars ouais. ». Alors cette chanson, évidemment, c'était une chanson de l'époque, comme à ce temps-là.
Alors elle me faisait chanter le Marsouin, et chaque fois elle pleurait.
Mais qu'est-ce que c'est le Marsouin?
Le Marsouin, c'était une chanson du siècle. À ce moment-là, il y avait les filles mères, il y avait les soldats, il y avait l'Alsace et la Lorraine, il y avait tout ça. Alors le Marsouin, c'était un gars de l'infanterie de Marie, un beau garçon, mais un cerveau brûlé. Quand il mettait les pieds à la cantine, on était sûr qu'il allait se saouler. Maintes pernons lui rendaient la main leste, et pour rien, il flanquait les marrons.
Je pense qu'elle a été élevée surtout par sa mère.
Françoise était.
Dans ses souvenirs, d'ailleurs, sa mère dit je me suis mariée pour qu'il y ait un homme à la maison. Ça prouve quand même un rapport aux hommes qui peut paraître un peu étrange. Et quand elle parle de sa mère, parle de son propre père, c'est quelqu'un, elle dit, il était très bon, mais en même temps, il était un peu absent de la maison, il dépensait sa paye au bistrot, alors que sa mère suait sang et eau pour gagner, même pas de l'argent quand elle lavait le linge, pour gagner des légumes. Et donc c'est la grand-mère, la mère et Jeannette ont formé une espèce de trilogie féminine qui était l'ossature même de toute cette famille sur trois générations. Elle a beaucoup admiré le combat des femmes aussi, en général. Et je ne sais pas exactement comment s'est passée cette conversion, si on peut dire. Il y avait une espèce d'idéalisation du christianisme qui était un peu assimilée au communisme. On voyait le Christ comme un républicain, comme quelqu'un qui avait donné, qui s'était sacrifié pour les pauvres. C'était ça leur christianisme dans ce milieu-là. Et une des chansons structurantes aussi pour cette trilogie grand-mère, mère et fille qui était Jeannette, c'était le Christ était cloué sur la croix d'infamie, où finalement chaque des trois couplets se termine par liberté, égalité, fraternité, dans un raccourci très étonnant avec la devise de la République française.
Bon, on va le chanter toutes les deux. Alors, on y va? Christ était cloué sur sa croix d'infamie, de son corps déchiré, le sang coulait à flots, des larmes sillonnaient sa figure meurtrie, et sa voix douce encore disait à ses bourreaux. J'avais semé l'amour, j'ai récolté la haine, j'apportais la lumière dans votre obscurité. Vous m'avez sans pitié chargé de lourdes chaînes, et pourtant j'annonçais chez vous la liberté.
Il y a deux personnes hein, qui sont des militants de la JOC qu'elle rencontre à ce moment-là. Des gens de la JOC qui faisaient du prosélytisme, tout simplement.
On peut préciser ce qu'est la JOC?
Alors, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne a été créée, je crois, dans les années 20. Donc, c'est une association. Dans le mouvement ouvrier, l'Église a parrainé la création d'un mouvement de jeunesse. Bon, dans un moment de l'histoire où le mouvement ouvrier était très fort, hein, puisque ça s'est passé dans les années 20. Tout le monde allait vers le monde ouvrier et puis essayait de capter. Et puis, il était perméable aussi à ces idéaux d'émancipation qui allaient de soi à ce moment-là.
Mais Jeannette Dussart-Chartreux, elle fait quelque chose de pas très catholique puisqu'elle rencontre un prêtre.
Oui, mais c'est un prêtre ouvrier qui défroque après. Parce qu'ici, terre d'évangélisation, il vaut mieux passer par la classe ouvrière pour avoir des adeptes à cette époque. Donc, la mission ouvrière, et ça c'est l'Église qui l'a commandé, elle a sciemment envoyé en mission, et c'était la première terre de mission en France pour les prêtres ouvriers au moment de la guerre, après la guerre, ici.
Donc il arrive.
Il arrive, il fait la résistance même ici. Mais il est prêtre ouvrier, il va à l'usine, il se syndique, il se fait virer, etc. Il installe dans un quartier juste à côté d'où habite Jeannette un lieu de rencontre, puis il donne la messe, etc. Donc il est en mission. Et Jeannette participe à ça, puisque dans ce quartier-là, bon, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, et elle sert de lien, tout ça.
Qu'est-ce qu'elle dit de lui ?
Ah ben, elle avait une admiration pour son côté, hein, comment dire, parce que bon, il avait fait le séminaire et compagnie, donc c'était un intellectuel. Et elle avait un complexe par rapport à ça. Elle aurait bien voulu faire des études supérieures, sûrement. En tout cas, elle avait aucun complexe à se faire.
Ils vivent leur histoire, j'imagine, un peu secrète.
Au début, mais ils se marient après. Hein. Il y a une période où les prêtres ouvriers, Rome, leur tombe dessus dans les années 50. Et tout ça, ça se précipite à ce moment-là. Ils se sont fréquentés avant de se marier. Enfin, je ne veux pas rentrer dans toutes ces histoires personnelles parce que, bon, ça n'a pas d'intérêt.
Mais ça coïncide. C'est-à-dire le fait que les prêtres ouvriers soient un peu exclus, et le fait que son mari décide d'entrer dans la vie civile avec elle.
Ben, à un certain moment, disons qu'ils font tout en parallèle. Hein, parce qu'à un certain moment, bon, il dit on quitte l'église et on va à l'union départementale. L'union départementale de la CGT. Il a fait un choix aussi. Il n'était plus prêtre. Mais les prêtres ouvriers avaient déjà été sanctionnés par Rome, donc par l'évêque ici, etc. Il faudra tout un temps pour qu'il acquière la confiance de la direction de la CGT, parce que l'évêque, d'un côté, considère que c'est l'œil de Moscou, et le Parti communiste et la CGT considèrent que c'est l'envoyé de Rome.
Et les chrétiens, enfin, moi je parle des chrétiens du Magoulet, c'est difficile de dire que tous les chrétiens étaient comme ça, mais...
Jeannette du Sartre-Chartreux.
Les chrétiens avec lesquels nous vivions, comme les communistes d'ailleurs, et ça je crois, avec lesquels nous vivions dans le quartier, avaient ce souci d'être au service, disons, des autres, sans en tirer davantage.
Je faisais des blouses à 10 sous la blouse. Et j'ai travaillé toute ma journée pour gagner seulement l'argent du loyer, parce que tous les jours, tous les matins, nous avions quand même 5 francs de loyer.
Et tu as retravaillé à quelle année?
Alors là, je suis bien restée hors. Je suis restée bien un an sans travailler, à bricoler comme ça. Mais papa, lui, n'a jamais rien.
Parce que tu trouvais en allant tous les matins dans les usines?
Eh bien, je trouvais sur le journal, puis je trouvais des copines, des fois, qui me disaient « on en a besoin ».
Tu n'as pas travaillé, chômé longtemps. Tu avais toujours du boulot quand même.
Oh, mais j'ai bien chômé aussi. J'ai chômé quand même un ou deux mois suivant. Mais j'avais travaillé chez vos hommes et je t'ai déjà dit, j'avais un caractère très gai. Quand on avait besoin d'une conneuse, les filles ont dit, on appelle la Marie parce qu'elle est bien amusante. Et j'étais bonne ouvrière. Alors je suis allé chez vos chemousses et là, le patron était très grand. Il faisait peut-être 1m90 et il me toise, il me dit « Vous êtes colleuse ?»« Oui, monsieur. » C'était un bon paysan qui avait pris cette affaire, qui s'était marié avec une femme très jeune et qui avait pris cette affaire de tige. « Alors, vous êtes colleuse ?»« Oui, monsieur. »« Une bonne colleuse ?»« Oui, monsieur. » Il me toise encore. « Mais vous savez bien travailler ?»« Oui, monsieur. » Ce qui fait qu'à la 5e ou 6e fois, je ne savais plus si j'étais colleuse et si j'avais bien travaillé. Enfin, il m'a pris le lundi. Alors, tous les deux, trois mois, nous avions des nouveaux tarifs, et c'est rare, sur 3 nouveaux souliers, s'il ne fallait pas en avoir un, qu'il fallait aller se discuter. Alors, il prenait son crayon, il comptait, il faisait, alors je lui disais, écoutez, monsieur, comptez, et je revenais, je rapportais aux copines, et bien, au lieu d'un 90, il venait nous le payer un 95, non, c'est 2 francs, je reviens. On ne voyait que moi traverser la coupe et aller chez le patron. Alors les cordonniers, quand ils entendaient crier comme ça, ils levaient le nez. Et le jour que j'ai cru qu'il allait me battre, taper sur le dos de ma chaise, mais enfin, c'est une honte. Le patron, de toute sa hauteur, s'est tourné et a dit, si Madame Dussart n'a pas besoin d'argent, oh ma petite, j'ai cru que je lui sautais après, mais j'ai rien dit. Mais il savait ma situation, et il savait que papa ne travaillait pas, que je vous avais toutes les deux à l'école. Je l'aurais, ça, c'est ce que j'ai dit bien souvent. J'étais bien malheureuse, je n'avais peut-être pas raison, parce que c'est vous qui souffriez. Et qu'est-ce que tu veux, ça, je ne pouvais pas baisser ma tête.
Lutte ouvrière dans la la céramique, naissance d'une industrie de la porcelaine, lutte des ouvrières porcelaines Limoges, suite de vie de la grève, novembre-décembre, 95, jusqu'en 95, Madame Jeannette Dussartre-Chartreux est présente. Et là, on aperçoit une photo, on retrouve des photos d'elle dans le groupe, un petit peu comme... Exactement comme pour les ouvrières quand elles tentent de faire le récit. Et finalement, elle est là, mais parmi le groupe. Nous n'avons pas d'image d'elle. Mireille Del Giacomo, vous la reconnaissez, vous ?
Alors moi, je ne la reconnais pas, mais je reconnais le congrès, puisque c'est le congrès donc, du Parti communiste, 19e congrès du Parti communiste à Nanterre. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un des congressistes qui a l'humanité devant lui. Donc c'est quelque chose auquel elle a dû participer. 19e congrès national à Nanterre, donc où il y a des gens qui plus tard sont devenus ministres, Marcel Rigoux par exemple, qui a été ministre.
Vous la découvrez au travers des archives qu'elle a constituées ou vous l'aviez croisée, Madame Jeannette Dussartre-Chartreux ?
Je l'ai rencontrée 2012-2013, en fait elle avait déjà donné une partie de son fonds d'archives et elle voulait poursuivre. Et c'était un moment où elle était moins bien, j'allais dire, sur le plan de sa santé, donc il y avait une certaine urgence à terminer cette livraison. Voilà, c'est ce qui nous avait amené à nous retrouver je dirais, on voyait, je dirais, l'effort qu'elle faisait pour... continuer de parler de son travail alors même qu'elle sentait que c'était plus difficile. Tout l'intérêt du plus petit événement au grand événement.
Il y a les grandes grèves, celles qui sont gagnées, et puis il y a aussi des grèves qui échouent, mais qui sont importantes. Et Jeannette Dussartre-Chartreux redécouvre une grève parfaitement oubliée, qui est la grève des corsetières, 108 jours de grève.
Oui, précisément, elle en a fait... un récit, là encore, et elle-même, elle se rend sur les lieux en 2009 avec deux anciennes ouvrières de la maison Clément. En 2009, deux anciennes ouvrières de la maison Clément nous avaient précédées. Arrivées dans l'atelier, l'une d'elles a fait quelques pas. C'était là la place de ma machine, a-t-elle murmuré. Jeannette Chartreux, c'est vraiment l'engagement d'une vie parce que ce récit de la grève des corsetières qui a eu lieu en 1895, elle le fait en 2009. Or, en 2009, elle a 80 ans.
Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort.
Avec Michel Kiener, historien, Francis Juchereau, Institut de l'Histoire sociale de la CGT, Mireille Della Giacomo et Elisabeth Sabi des Archives municipales de Limoges. Françoise était professeure au CNR de Limoges et responsable du département de musique traditionnelle. Prise de son, Arthur Dumont et au mixage, Bruno Mourlan. Une histoire particulière, une émission coordonnée par Christine Bernard. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Bérissi.
Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr, dedans nos maisons blêmes, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous ferons partie de la bande à Bono, mais c'est une autre histoire.